gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, désolé d'avoir coupé les bandes continues, mais c'est l'heure de la causerie, alors on est là. C'est dimanche, 22-23h, avec ce soir à la technique, Clara.
Bonsoir.
Et puis bah, autour de la table, Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab qui a fait le lancement.
Salut. Et ben donc, je vous rappelle que pour nous joindre, c'est tout simple, un mail.
Le mail, c'est la causerie canu, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Voilà. La causerie canu, @gmail.com.
Et on a aussi un blog. Alors, c'est sur blogs.radiocanu.org/la causerie, ou plus simple, vous allez sur radiocanu.org, vous cherchez les blogs des émissions, et on est là-dedans, il n'y a pas de souci. Ou même sur la grille des programmes, vous cliquez sur nous et ça amène sur le blog. Et donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog, parce que ça nous fait bien plaisir d'avoir vos retours, alors positifs ou négatifs, sur les émissions, ou même vos petites idées. Vous pouvez nous passer un peu tout ça par le blog ou par le mail. Voilà. Et avant de démarrer cette émission, on voulait apporter un soutien à un animateur de Radio Canu, un autre, qui a besoin d'un... Voilà.
C'est ça, c'est Dali, l'animateur de Berbère sans frontières, si je ne m'abuse, oui, qui est le samedi soir. Alors, je ne sais plus, c'est 20h ou 21h. Et qui, ben, lui, en fait, était parti en Algérie. Et puis, ben, à son retour, en tout cas, quand il voulait reprendre l'avion en direction Lyon, et ben, on l'a arrêté. C'est-à-dire des représentants des forces de l'ordre, on va dire, de l'État algérien, l'ont arrêté et l'ont interrogé un petit moment pour savoir quelles étaient ses activités, tout ça, parce que, bah oui, il est proche du mouvement kabyle et berbère et que, bah, ça lutte contre un pouvoir central algérien. Donc, de tous les côtés des frontières, des mers, etc., il y a toujours des gens qui luttent. Ne l'oublions pas.
Et puis, ben, une deuxième pensée, entre guillemets, on est le 13 novembre, vous avez entendu partout, c'était une journée de commémoration, et donc c'est la journée mondiale de la vasectomie. Donc, une pensée pour tous les gens qui... Non, j'arrête ma mauvaise blague. Bien sûr, une pensée, alors non pas pour juste les victimes françaises d'actes barbares, mais pour toutes les victimes dans le monde qui subissent ces actes barbares faits par quelques fanatiques un peu trop, comment dire, un peu trop sûrs d'eux et sûrs de leur après.
Ou par des États.
Ou par des États, bien sûr. C'est un peu pareil pour moi.
Oui, non, mais c'était pour qu'il y ait les deux mots. Hein.
Oui, voilà.
La guerre tue toujours.
C'est ça.
Quel que soit celui qui lance les bombes, en dessous, c'est toujours les civils qui ramassent.
C'est ça. On démarre ?
Eh ben, allons-y.
Eh ben, justement, journée mondiale de la vasectomie, ça tombe plutôt bien.
On est dans le thème.
On est en plein dans le thème, là.
C'est ça. En fait, je voulais vous parler de ça, c'est parce que je suis tombé sur un article de Courrier International, qui date du 2 novembre, en fait, et qui nous parle, en fait, de la contraception et de la pilule pour hommes qui ne serait pas pour demain.
Ou après-demain, a priori, d'ailleurs.
Oh, il y a le temps, quoi, je veux dire, enfin bon. Alors, je vais vous donner, enfin, je vais essayer de vous donner un peu tout ce qu'on retrouve dans cet article, que j'ai aussi, après, je vous donnerai encore quelques autres chiffres. Donc, déjà, c'est donc des essais cliniques de contraception hormonale pour les hommes ont été suspendus en raison des effets secondaires qu'elles provoquent. Donc une étude qui est parue fin octobre dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism suscite de nouveaux espoirs en matière de prévention des grossesses non désirées autant qu'elles sèment le trouble. D'un côté, elle montre l'efficacité d'une méthode de contraception hormonale masculine testée sous forme d'injection auprès de 320 volontaires et de l'autre, elle révèle un arrêt prématuré des essais cliniques. Alors déjà, je voulais revenir sur la forme d'injection. Donc en fait, c'est cette méthode contraceptive. En fait, c'est elle consiste à avoir des injections dans les fesses, voilà, toutes les 8 semaines. Donc c'est 2 injections hormonales en fait qui sont réalisées à chaque fois. Alors la première contient, alors je vais la faire technique, hein, mais c'est juste pour qu'on comprenne un peu quand même comment ça se passe. Alors l'une contient de la norétistérone, progestérone qui a pour effet de bloquer la production de spermatozoïdes contrôlés par l'hypophyse, qui est une zone du cerveau, et l'autre injection renferme de la testostérone afin de rééquilibrer le niveau de cette hormone en chute à cause de la première injection. Alors, le truc, c'est cet arrêt prématuré à cause de quoi ? Donc, il le disait, c'est à cause des effets secondaires associés. Alors, les plus courants, c'est l'acné, les douleurs à l'endroit où les injections étaient faites, une augmentation de la libido et des troubles de l'humeur, écrivent les chercheurs de leur publication.
Une augmentation de la libido, c'est ce que tu as dit ? C'est pas une diminution ?
J'ai dit... Non, j'ai dit une augmentation de la libido. Ouais. Et donc, alors, là encore, c'est un peu chiffré, mais c'est les détails quand même. C'est alors 1491 événements indésirables ont été rapportés par les volontaires. Et en fait, les chercheurs, ils tempèrent dans un communiqué qu'en fait, 39% sont avérés sans rapport avec les injections.
Oui, c'est le fameux effet induit. Quand on vous dit que vous testez un médicament, vous avez toujours tendance à faire plus attention à vous et à dire ah ben là il y a ça qui arrive alors que vous l'aviez déjà avant, mais que voilà quoi.
C'est ça et donc
c'est pas lié du tout. Quoi.
Et donc il y a quelques chiffres. Encore une fois, c'est toujours l'acné qui est présente chez 46%. Un intérêt accru pour le sexe est constaté chez 38%. Un quart des volontaires ont ressenti des douleurs au site d'injection. 16% au site au niveau musculaire, etc., etc. Et donc cet arrêt qui est prématuré des essais, donc il est jugé par Deborah Orr du Guardian, donc un journal qui dit que c'est étrange quand même en fait, parce que la pilule a des effets secondaires comparables, bien qu'elle puisse parfois soigner l'acné.
Oui, la pilule chez les femmes.
La pilule hormonale féminine, elle est aussi responsable de bien d'autres troubles, tels que des maux de tête, des nausées, des crampes abdominales ou encore une prise de poids. C'est ce qui est souligné dans un autre article de The Atlantic qui détaille les notices de plusieurs pilules contraceptives et rappelle qu'il existe des cas rares de perforation d'utérus par des stérilets. Donc il y a The Independent. Ouais, je m'y fais pas. Hein. Un truc dans le genre. Qui dit, alors oui, les contraceptifs ont des effets secondaires et il est temps pour les hommes de s'y mettre aussi. Il y a une autre personne, c'est souvent le truc de Courrier International, c'est de compiler un peu plusieurs avis autour d'un sujet identique. Et donc, pour Christelle Setna, spécialiste pour les études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa, le fait qu'il n'y a toujours pas de contraception masculine, alors qu'elle est commercialisée pour les femmes depuis les années 60, est symptomatique d'inégalité dans le genre. Et elle dit, effectivement, pas seulement dans la limitation des naissances, mais aussi au niveau de la médecine générale. Donc voilà, et à côté de ça, il y a bien évidemment d'autres gens qui réagissent, ceux qui sont un petit peu plus à droite et un petit peu plus libertariens, qui disent, parce qu'ils étaient irrités par le nombre d'articles qui tournaient un petit peu en dérision, ces pauvres hommes qui avaient de l'acné, qui avaient des trucs, en fait, que les femmes ont déjà, en fait, qui prennent la pilule, et en tout cas qu'elles peuvent avoir. Et donc, ce journal, ce site internet, en tout cas, dit, cet essai de contraception masculine dont vous vous moquez, tous rend des gens infertiles.
Ce qui est faux.
Alors, ce qui est faux, en fait, c'est l'article. Alors, il fait référence au fait que les participants, en tout cas, l'un des participants n'a pas retrouvé un taux de spermatozoïdes normal 4 ans après sa dernière injection.
4 ans ?
Ouais, 4 ans. Alors, le truc, c'est pour expliquer.
Mais du coup, il a quand même des spermatozoïdes.
Il a quand même
des spermatozoïdes. Il n'est pas infertile.
Non, mais alors c'est des taux en fait. Alors pour avoir un taux, on va dire, je sais pas, normal en tout cas pour pouvoir avoir des enfants, c'est 15 millions de spermatozoïdes au millilitre.
Il y a du monde là-dedans.
Il y a du monde. Et dans la période de test, en fait, ça descend à 1 million. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je pense que c'est un seuil qui fait que...
Oui, il n'y a pas de fertilité.
C'est ça. Donc, je pense que c'est dans ce genre de cas-là...
Donc, il va se situer entre 1 et 15 à l'issue.
C'est ça. Donc, il y en a un sur tous les essais. Donc, voilà. Et il y a une autre personne qui elle aussi a réagi à cet essai, qui disait en fait c'est pas forcément une bonne idée parce qu'elle risquerait de faire perdre aux femmes la maîtrise de leur propre corps. Et en fait c'est une femme qui dit ça, qui dit: je suis une grande féministe et l'idée que les femmes assument toute la responsabilité alors qu'il y a deux parties dans cette affaire est totalement ridicule. C'est Frankie Leach qui dit ça dans le Huffington Post. Mais cela signifie-t-il que je devrais faire confiance à un homme pour être aussi responsable avec la contraception que je le suis? Je ne pense pas.
Il y a du boulot en fait.
Mais oui, en fait,
c'est une question de mentalité en réalité.
En fait, c'est surtout ça que ça révèle, c'est-à-dire que oui. Il y a des choses qui peuvent sûrement s'améliorer, mais à côté de ça, ça enlève rien au fait que, les hommes, ils peuvent bien aussi, effectivement, participer à ce truc-là, parce que finalement, le fait de pas avoir envie d'avoir d'enfants, ça dépend de plusieurs personnes, en fait. C'est jamais tout seul ou tout seul qu'on fait tout ça.
Donc, même si je comprends le point de vue qui dit que moi, si je suis une femme et que je prends la contraception, je suis sûr, moi, d'être réellement protégé d'un enfant.
C'est ça. C'est exactement ça.
Mais ce qui se conçoit aussi de
clairement. Et donc voilà. Et après, enfin, je trouvais que ça réagissait avec un autre article que j'ai trouvé. C'était sur Mademoiselle, qui pareil disait: bah tiens, ça sera pour quand c'est la contraception hormonale pour les hommes, parce que pour les femmes il y a quelques choix quand même, et alors que pour les mecs il y a pas grand chose mis à part la vasectomie ou la capote, et donc voilà. Donc c'est assez intéressant aussi, et qu'elle dit effectivement, quand on apprend que les études sont arrêtées à cause des effets secondaires, en fait là aussi elle revient en disant ça date pas d'aujourd'hui en fait, les effets secondaires. Et ce qui est problématique, encore une fois, c'est que c'est parce que les mecs sont potentiellement, clients consommateurs en tout cas de ces médicaments-là. Là, d'un coup, il faudra absolument trouver le médicament, le contraceptif hormonal, qui n'aura absolument aucune interaction négative, dirons-nous. Oui, c'est négative sur les hommes en fait. Donc avant on s'en foutait, mais là peut-être ce qui me fait penser que mesdames, vous avez peut-être une chance que vos contraceptifs hormonaux s'améliorent, parce que les mecs sont susceptibles bientôt d'en prendre. Donc voilà, ça a un peu la même logique, c'est ce que je disais en prépa, c'est un peu la même logique que les aspirateurs qui maintenant sont automatiques, ils font ça tout seuls parce que on partage les tâches. Donc voilà, c'est un peu la même logique, et je trouvais ça assez parlant.
Ah, mais clairement. Moi je voulais amener un éclairage un peu en biais, c'est par rapport aux tests médicamenteux. Ouais. Il y a des choses que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des médicaments dans le monde sont testés uniquement sur des mâles, sur des hommes, identifiés comme mâles, comme on dit dans les écrits de la médecine. C'est assez horrible hein, comme façon de dire, mais voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait les hommes n'ont pas de variation hormonale. Quasiment, alors que sur plusieurs mois, alors que les femmes, oui. Donc du coup, pour pas se faire chier à voir s'il y a des effets secondaires ou autres, on prend que des hommes. Mmh. Et comme ça, on teste le Doliprane, tout ce que vous voulez, les vaccins, tout, majoritairement sur des hommes. Alors, c'est un double effet totalement pourri. Le premier, c'est que déjà, ça veut dire que vous, mesdames, on ne connaît pas les effets secondaires du médicament sur vous, notamment en cas de changements hormonaux ou de période de règles, par exemple. Et la deuxième, c'est surtout que on voit encore une fois quel est le client qui est visé dans le monde par l'industrie pharmaceutique. Mmh. C'est en priorité les hommes, ce qui reproduit un bon vieux patriarcat et une bonne vieille vision que la femme, on la soigne si on a le temps, quoi.
Dans beaucoup d'endroits
le monde. Donc voilà, et il faut voir que c'est perpétué là aussi par l'industrie pharmaceutique de façon assez ouverte, parce que personne ne le cache, sauf que heureusement il y a quelques féministes, notamment américaines et canadiennes, qui aujourd'hui commencent à dire ça suffit, va falloir commencer à tester pour nous aussi, parce que on sait, par exemple, un exemple tout bête, on a découvert très longtemps après que l'ibuprofène faisait des malformations sur le fœtus, pour une seule et une unique raison, c'est que l'ibuprofène n'avait jamais été testé sur une femme. femme et qu'on ne connaissait pas la combinaison hormonale. C'est un des exemples qu'elles prennent pour dire voilà ce que peut entraîner votre logique purement patriarcale de la médecine.
C'est ça en fait, c'est que la logique elle est déjà au départ en fait dans la manière de faire
d'approcher les choses.
D'approcher les choses, c'est ça. Déjà, pardon. Donc voilà, c'était une petite réflexion autour de tout ça et puis après j'ai un peu trouvé aussi une association de mecs qui justement veulent prendre leur part en fait dans ce combat-là et dans cette répartition, je sais pas comment on peut appeler ça,
des choix,
de la contraception, c'est ça. Donc voilà, et peut-être que je vous en reparlerai une prochaine fois. T'as autre chose à rajouter?
Non, c'est bon. Moi,
et ben allez, on peut. C'est bon, Clara. Et ben passons à la zic. Allez.
Je ne veux pas pourrir dans le fond d'un cercueil, ni voir la meuf d'accueil qu'il y a au paradis. Je veux rester ici avant que la fin me cueille, comme on cueille une pomme, même si c'est dur des fois. C'est mieux que d'avoir la foi, c'est mieux qu'une crise de foi ou qu'une sale rage dedans. La vie ça vient qu'une fois. Et ça passe comme une danse, danser près de la mort, danser près de la mort, au pied de ta maison, les murs de la misère, les clés de ta raison. On est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt. L'œil trouble, on vit l'odeur. Un monde moissin, sentir douleur. Des mots malsains nourrissent les peurs. On est, on vit, on meurt. Et mais vite, mes sœurs. Regard humide, la gorge au cœur, chaleur canine, mes poumons, mes cœurs. On est, on vit, on meurt. Si je passe le temps, on est, on vit, on meurt. Sans intérêt pour ça. On est, on vit, on meurt. La vie, c'est fait pour ça. On est, on vit, on meurt. C'est tester sa naissance. Aimer tous les moments. C'est se mentir dans le sens, c'est se mentir dans le froid, c'est noyer son essence, c'est lâcher le combat, de l'infiniment petit face à l'infiniment grand, se perdre dans le profond, sans voir à la surface, dans les mots d'un prophète, les réponses aux questions, je les laisse aux grosses têtes. On est, on vit, on meurt, aussi vite qu'un cri qu'un pleur, aussi bête qu'un vide qu'une fleur. On est, on vit, on meurt, aussi rien qu'un fil qu'une heure. Vite, sans douleur, sans forfait. Une âme qui boite, mais plus de temps, mais elle arrive à la paix. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas naître. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas vivre. On est, on vit, on meurt. Le bruit, le goût, la sueur. D'un bout de pain vient le bonheur. Des beaux larves nourrissent les cœurs. On est, on vit, on meurt. Elle est vide, les corps. Le foie, le bide, les femmes d'abord. Les crampes ruminent, l'estomac dort. On est, on vit, on meurt. Aussi chaud qu'un soleil mort, aussi doux qu'une nuit dehors. On est, on vit, on meurt. Aussi doux qu'un jour qu'on dort. On est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22 à 23h. Et on vient de s'écouter aux deux zen avec le titre « On est, on vit, on meurt ». Voilà.
C'est chouette ce titre.
Oui, c'est une petite spéciale casse dédiée.
D'accord.
Voilà.
On ne saura pas, mais tu dédicaces.
Ouais, c'est ça. Je fais ce que je veux. Pardon. Eh ben, on continue. Fab, tu veux nous causer d'un film qui est à l'affiche d'ailleurs.
Oui, oui, qui est à l'affiche pour la deuxième semaine. Donc, il va falloir commencer à courir à aller le voir si vous voulez, parce que c'est au cinéma maintenant. Ça reste plus très très longtemps. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Snowden, qui est donc sur Edward Snowden et qui est un film d'Oliver Stone. Voilà. Alors, pour faire simple, hein, je vais vous raconter vite fait le pitch du film, enfin le résumé, hein, pour faire plus simple. C'est en juin 2013, hein, pour ceux qui se rappellent, Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA, divulgue des informations classifiées concernant les systèmes d'écoute de la seconde agence, donc de la NSA. Il est caché dans un hôtel de Hong Kong et raconte alors son parcours à la réalisatrice Laura Poitras et au journaliste et blogueur Glenn Greenwald. Voilà. Donc ça, c'est le début du film. Et en fait, après, pendant tout le film, vous allez avoir revivre la vie d'Edward Snowden de 2004 à 2013, de son entrée sa tentative d'entrée dans les forces spéciales à sa sortie un peu médiatique de la NSA et de la CIA. Voilà. L'intérêt, alors je vais quand même un petit peu balayer le film et après je vous reviendrai sur l'intérêt du film et tout ça. Donc quand même rappeler que c'est quand même Oliver Stone le réalisateur, que Oliver Stone c'est pas n'importe qui dans le cinéma, c'est quelqu'un qui sait manier une caméra, donc c'est un film qui est plutôt agréable, même si c'est pas forcément son meilleur en termes de temps. Je pense que des fois il y a quelques micro-longueurs dans le film, mais bon, ça c'est aussi lié au sujet qui est un peu complexe, donc qui nécessite des dialogues parfois un peu longs pour qu'on comprenne, mais il est très intéressant néanmoins. Il a fait appel comme souvent à Craig Armstrong pour la musique et à Adam Peters, voilà, c'est un peu les deux personnes qui travaillent souvent avec lui et qui font des musiques qui collent extrêmement bien à son style de cinéma. Voilà. Juste quand même, pour remonter ce film, Oliver Stone, il a vachement galéré à trouver des financements, parce qu'aux États-Unis, personne ne voulait financer Snowden, et c'est pas pour rien. Donc en fait, il a un financement qui est plutôt qui est français et allemand en principal, et un peu américain en troisième partie, pour un budget de 40 millions de dollars. Alors ça peut paraître très gros comme budget, mais il ne faut pas oublier que l'histoire se passe en fait dans plusieurs pays et qu'il est allé filmer sur place parce qu'il ne voulait pas donner un effet studio qui était trop qui aurait coupé les gens de l'histoire. Donc on se balade dans plusieurs pays dans le monde, donc oui, ça coûte un peu d'argent, et 40 millions de dollars juste comme ça, c'est pas un énorme budget quand on voit que maintenant n'importe quel petit film d'horreur ont des budgets qui atteignent 60 ou 70 millions de dollars. Vous voyez, c'est pas excessif, quoi. Donc voilà. Alors on retrouve quand même à la distribution, c'est Joseph Gordon-Levitt qui va interpréter Edward Snowden tout le film, sauf à la fin où vous avez carrément Edward Snowden qui est dans son propre rôle. Voilà. Et c'est intéressant parce que
spoiler, non, c'est ça qu'on dit.
Ouais, mais ça s'est su parce que justement j'en reparlerai après, mais on lui a reproché de l'avoir filmé.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Donc ça s'est su qu'il était dans le film. Voilà, il est vraiment à la fin du film. Vous avez aussi Shailene Woodley qui joue la compagne d'Edward Snowden, Lindsay Miles. Alors elle, vous la connaissez peut-être pour Divergente, voilà, mais c'est pas une excellente actrice à mes yeux jusqu'à maintenant. Et là, d'un coup, je me suis dit, si, en fait, elle sait jouer. Donc comme quoi, des fois, il faut jouer avec Oliver Stone. Il y a Melissa Leo qui est une second rôle, une éternelle second rôle, comme on dit au cinéma, qui joue Laura Poitras, mais qui a énormément de charisme et qui vraiment interprète cette journaliste assez sûre d'elle, qui d'habitude filme des choses dans des conditions assez compliquées, et qui va être celle qui va filmer les aveux de Snowden. Et en fait, on voit bien que c'est une nana à qui, elle a pas trop peur, quoi, et à qui on peut pas vraiment impressionner, même si on essaye, quoi. Voilà. C'est intéressant. On retrouve Zachary Quinto aussi qui joue Glenn Greenwald. Et alors, c'est intéressant parce que Zachary Quinto, c'est aussi quelqu'un que vous retrouvez dans des très grosses productions. Et il y a des gens qui disent que ce sera peut-être le dernier film de sa carrière, vu qu'il a fait un film sur un traître à la nation. Voilà, bon, j'y crois pas du tout, mais c'est intéressant de voir les réactions que ça a amené. Et on retrouve aussi Nicolas Cage dans un second rôle, Tom Wilkinson, et le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood. Voilà, ce qui est assez marrant. Voilà, d'un point de vue de ce que son papa y soutient. Voilà. Et Timothy Olyphant, qui sont à peu près les plus connus et vraiment ceux qu'on suit dans le film. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous fait d'énormes efforts pour ressembler aux personnes qu'ils incarnent. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que Snowden ressemble à Snowden, c'est quand même mieux, mais même les seconds rôles ont essayé de coller aux personnes réelles qu'ils incarnent, parce qu'on les connaît en fait, on les a vus soit à la télé, soit dans des auditions à droite et à gauche, voilà. Alors pourquoi le film est intéressant? Oui, les auditions, aux États-Unis qu'il y a eu suite à l'affaire Snowden. Donc on les a vus à la télé, ils étaient auditionnés, donc du coup on connaît leur visage.
D'accord,
c'est pas des gens secrets.
D'accord, voilà. Je savais pas.
Et donc du coup, pourquoi le film est intéressant? Il est intéressant à trois niveaux à mes yeux. La première, c'est d'abord par rapport à Snowden lui-même, parce que moi j'avais un peu l'idée, alors je vous le dis franchement, pour moi Edward Snowden c'était un petit peu un gros bourrin des forces spéciales qui était un peu con-con sur les bords, et en fait j'ai découvert que pas du tout. Voilà, je le connaissais pas spécialement. J'ai découvert qu'en fait Edward Snowden c'est plutôt quelqu'un qui vient d'une famille très patriotique où on est militaire un peu de père en fils, hein, c'est un peu l'idée, le grand-père est militaire, le père est militaire, et lui il veut être militaire. Il est très patriote au départ, mais vraiment c'est quelqu'un de même limite agaçant sur son côté patriote. Il a un vrai rapport à la nation comme quelque chose de presque sacré. C'est-à-dire, et le commandeur en chef a toujours raison. C'est-à-dire, le président des États-Unis, il sait ce qu'il fait, il a toujours raison. S'il demande d'aller faire la guerre, c'est qu'il faut aller faire la guerre.
Ouais, ce qui n'est pas étonnant, finalement, si le mec, il a baigné dans un univers militaire, il fait que reproduire et il est habitué à cet environnement, quoi.
Mais il a deux défauts. Le premier, c'est qu'il n'a pas le physique. C'est pas quelqu'un qui est fait pour être vraiment un gros bidasse, hein, vous voyez, parce qu'il fait 70 kilos tout mouillé, donc voilà, et puis il est assez grand, donc c'est longiligne. Et puis, en plus, il est un peu geek. Enfin, même beaucoup geek, en fait, il est passionné d'informatique. Et du coup, il a pas trop le profil pour devenir un gars des forces spéciales, même si au départ, il essaye de rentrer dans les forces spéciales. Vous voyez, il a quand même cette envie de faire comme ouais. papa, comme grand-papa. Hein, Et puis, dans sa vie, il va avoir plusieurs choses qui vont un peu changer sa vie. D'abord, il va se péter les jambes chez les forces spéciales, donc ça va être un peu compliqué de continuer. Et puis, la deuxième chose, il va rencontrer un peu l'amour. Et on choisit pas de qui on tombe amoureux. Il va tomber amoureux d'une petite activiste photographe qui serait plutôt à l'opposé de l'échiquier politique de ses positions à lui, et qui est quelqu'un qui va le comprend dans le film, et ça je trouve plutôt bien fait, qui va un peu le pousser à se questionner, c'est-à-dire à dire t'as le droit d'être patriote, t'as ça, mais enfin tu t'es jamais posé de questions sur pourquoi tu l'étais, voilà. Et c'est intéressant parce que c'est pas montré de façon lourdaude par Oliver Stone, c'est juste on suit leur relation, ils sont toujours ensemble aujourd'hui, donc on suit leur relation pendant des années, sur des années, et du coup on se rend compte que là aussi une influence sur lui comme lui a une influence sur elle, donc voilà. Ça c'est le premier aspect du film que j'ai trouvé plutôt bien foutu. Le deuxième, c'est l'explication. Parce que moi, j'ai pas vraiment compris, j'avoue, j'avais lu des trucs sur Prism, sur tout ça, sur tout ce que Snowden avait parlé, mais j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Alors, je suis peut-être très con, mais pourtant, j'aime beaucoup ces trucs-là, mais j'ai jamais compris comment ça pouvait marcher. En fait, dans le film, il vous l'explique très simplement. En fait, la NSA a un Google de vos vies privées. Non, mais pour faire simple, c'est ça, ils ont un moteur de recherche, ils recherchent par mots-clés sur votre vie privée. Voilà. Et ils peuvent tout craquer. Mais alors tout de A à Z, vous planquez ça dans une truc crypté, ils arrivent à trouver la porte du cryptage. Souvent les sociétés qui cryptent leur ont donné eux-mêmes la clé parce qu'ils collaborent assez facilement avec la NSA et la CIA. Donc en fait ils ont vraiment un accès à la vie privée des gens et ils s'en servent. Et là c'est le troisième aspect que je trouve intéressant du film, c'est qu'en fait au lieu de nous abreuver de technologie pendant 2h15, parce que le film fait 2h15, non, on va vous abreuver des conséquences, parce que ça c'est plutôt intéressant. Comment ils font, de toute façon ça changera rien que vous le sachiez dans le détail, ce qui est intéressant c'est de savoir à quoi ça sert, parce que c'est ça qui est important. Et en fait dans le film on va vous montrer trois exemples, alors je vais pas tout vous spoiler comme on dit, on va vous montrer trois exemples très précis de comment on peut influer sur la vie de gens qui ont soi-disant rien à cacher. Et comment, en fait, cette surveillance de masse et permanente permet, en fait, aux services secrets de diriger en sous-main des transactions financières, des rapports avec d'autres pays, le monde, on va dire ça comme ça, au nom d'une nation, parce qu'en l'occurrence, on parle des États-Unis. Et voilà. Donc, d'ailleurs, dans le film, il raconte comment Edward Snowden a aidé à mettre des malwares, vous savez, ces petits programmes qui font tout capoter, sur plusieurs pays qui sont vus comme potentiellement un jour ennemis des États-Unis. Donc, Snowden fait la liste dans le film. Donc, il y a le Japon, parce que puissance économique, la Chine, donc jusque-là, ça, oui, pourquoi pas. Alors, bizarrement, il n'y a pas les pays du Golfe. Donc, par contre, il y a l'Autriche. Alors, pourquoi l'Autriche? Même lui, il dit dans le film, mais pourquoi l'Autriche? Et en fait, il comprend lui-même pas tout, mais il y a sûrement des choses en dessous qui sont engagées. Il y a la Russie, évidemment, qu'on retrouve souvent dans le film. Et c'est hyper intéressant parce que justement, en fait, le film vous montre les conséquences et il vous montre jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on peut utiliser le malheur des gens contre eux-mêmes, jusqu'où, en fait, on a vraiment tous quelque chose à cacher. Parce que même la petite photo de nu que vous avez fait pour votre compagnon ou votre compagne et que vous stockez au fin fond de votre disque dur, soi-disant caché, en fait, ils l'ont. Donc ça peut vous mettre mal à l'aise. Je donne cet exemple parce qu'il est, il est flagrant. Il montre aussi un programme qui permet de rallumer les caméras d'ordinateur si vous ne les fermez pas. Vous voyez, et même toutes les caméras d'ordinateur, ça permet de filmer chez vous et d'avoir le son de chez vous. Donc en fait,
ouais, direct. Voilà.
Bah, c'est Love Story, mais version ouais, NSA. Ouais. Voilà. Et surtout, il y a une explication qui est vachement bien faite. C'est qu'il explique ça très bien. Enfin, c'est très bien expliqué dans le film. Et c'est Edward Snowden qui l'a expliqué dans le livre qu'il a fait avec la journaliste du Guardian. On revient au Guardian d'ailleurs. C'est qu'en fait, quand vous espionnez quelqu'un, vous espionnez lui plus 40 personnes qui ont eu en contact avec lui téléphonique ou internet. Puis ensuite, il faut monter 3 échelons au-dessus. C'est-à-dire que vous repassez un peu un échelon au-dessus des 40 à chaque fois, et à chaque fois, vous repartez sur 40 personnes et vous repassez au-dessus encore 40 personnes. Et en fait, il explique très bien dans le film que quand vous espionnez une personne, en réalité, vous espionnez 2 millions de personnes. C'est l'effet exponentiel de ce truc-là. Et quand vous comprenez ça, en fait, bah, vous voyez l'étendue du problème et de la problématique. Alors je vais juste finir là, sur le film, je vous laisserai aller le voir, et aller quand même sur ce qui est quand même dénoncé très bien dans le film et que je trouve excellent. La première chose, c'est que non, Barack Obama n'était pas un président d'extrême gauche, et non, Barack Obama n'est pas un gentil président qui fait juste des chèques avec ses mains. Barack Obama est un chef de guerre, comme tous les présidents, et comme notamment tous les présidents des États-Unis. Et oui, Barack Obama, pendant des années, va couvrir la NSA et la CIA, et va empêcher que, que Snowden n'ait pas à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de sortir des données pour pouvoir dire regardez si ça existe en réalité, même si on vous dit que c'est pas vrai. Il faut savoir que dans le film, ils vous font très bien comprendre que dès que Barack Obama arrive au pouvoir, il est parfaitement au courant de tout ce qui est fait par la CIA et la NSA. Il sait particulièrement que le Patriot Act a permis de dépasser tout. Il nous parle dedans de la FISA, qui est un truc qui a été mis en place, qui est en fait une cour, un juge qui est nommé, mais c'est un juge secret défense. Donc personne ne le connaît, et qui en fait donne l'accord d'aller espionner n'importe quand. En fait, dans le film, il vous explique c'est un gars qui met un coup de tampon sur votre petite feuille pour dire oui, c'est bon, tu peux espionner, et qu'en fait les mecs espionnent avant, c'est-à-dire qu'il met le coup de tampon après, donc tout va bien, voilà. Et tout ça, il le sait, Barack Obama, parce qu'il le sait, mais pendant des années, il va faire comme si ça n'existait pas. Jusqu'en 2015 quand même, hein. Je rappelle qu'il a été élu en 2008. Voilà, parce qu'en fait, ça l'arrange. Hein. Parce qu'en réalité, la guerre contre le terrorisme, hein, dont tous les grandes puissances aiment nous dire qu'on est en guerre contre le terrorisme, en réalité, ça sert surtout à éliminer des gens dont on sait qu'ils pourraient nous embêter. Et qu'en fait, le terrorisme est un peu un prétexte, parce qu'ils le disent très bien dans le film. En réalité, la guerre des États-Unis aujourd'hui, elle est vers l'Asie. Elle n'est pas vers l'Irak et l'Iran. Et vers l'Asie. La crainte des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine et le Japon et la Corée du Sud, hein, pas du Nord. Donc, voilà. Et il vous l'explique très bien. Et en fait, dans le film, il y a un super dialogue où il y a un gars qui dit à Snowden, non, toi, je t'envoie pas aller te faire buter en Irak pour rien, alors que je vais avoir besoin de toi dans 10 ans pour contrer les Chinois et les Coréens. Voyez. Donc il y a déjà 10 ans d'avance et un coup d'avance. Donc on comprend très bien que de toute façon les outils de renseignement sont avant tout des outils qui font de l'anticipation et qui cherchent à garantir à une nation, quelle qu'elle soit, parce que la France a aussi des outils de renseignement, sert à garantir à une nation la suprématie économique de cette nation. Ce n'est que ça en fait, hein. Faut arrêter de tourner autour du pot, ce n'est que ça qui est dedans, et c'est très très bien dit dans le film. Et la deuxième chose que je voulais souligner, c'est ce qu'il y a eu après le film, c'est les réactions. Alors d'abord, il faut savoir qu'Edward Snowden est toujours traître à la nation, hein, d'un point de vue. Il est toujours apatride, grâce à Barack Obama aussi, hein, qui lui a retiré par un décret présidentiel. C'était un président totalement différent. Donc il a retiré à Snowden le fait d'être américain. Donc aujourd'hui, Edward Snowden est coincé en Russie. Mais il est coincé, il n'a pas le choix.
Mais apatride.
C'est illégal. Illégal du point de vue de l'ONU.
C'est pas le seul, hein, certainement.
Il y en a plein qui existent dans le monde, mais on sait que normalement, on n'a pas le droit d'être apatride. Oui. Voilà. Sauf que Snowden se retrouve totalement apatride, donc il est coincé en Russie. Alors pour être très clair, il voulait pas aller en Russie, hein. Il est passé par la Russie parce qu'il a pas trop eu le choix. Ils expliquent très bien à la fin du film son périple et que finalement, il s'est retrouvé coincé là. Donc voilà. Et donc, il est traître à la nation. Traite à la nation, c'est peine de mort. Hein, oui. Je vous rappelle, hein, pas faire très pas de truc. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, aux États-Unis, le film, il a divisé la société en deux, un peu comme Trump et Hillary Clinton, vous voyez, avec ceux qui disent, le film nous montre qu'Edward Snowden n'a fait finalement que nous alerter sur ce qu'étaient nos droits fondamentaux, c'est un droit à la vie privée quand même, et ceux qui disent non, c'est un traître avant tout, donc il doit être tué. Il y a même des gens qui écrivent des commentaires du genre, il devrait être fusillé place du Capitole, et Oliver Stone devrait être pendu à l'entrée d'Hollywood et son corps laissé pour que les gens arrêtent de faire des films anti-américains. Oui. Ok, le climat est bon, hein, quand même.
Sympa, ouais.
Mais ça montre à quel point l'affaire Snowden est encore très vive et très actuelle. Parce qu'il faut savoir que depuis, bah oui, Barack Obama, il a gentiment fait un petit décret en disant on va arrêter d'espionner les Américains. Mais il a jamais interdit Prism. Il a jamais interdit les outils dont ils se servent. Il a juste demandé à ce que, quand même, ils fassent un peu attention. Donc, en fait, c'est ce qu'ils disent dans le film très bien. En réalité, il a rien fait. Il a fait de la politique. Il a laissé croire que. Mais en fait, il n'a strictement rien empêché à la CIA et à la NSA par rapport à ce qu'il y avait avant. Il a modifié un petit peu les règles et en gros, il se planque un peu plus. Mais au final, tout existe encore. Et c'est pour ça que personne ne veut de procès pour Edward Snowden. Parce que si Edward Snowden passait en procès, et c'est pour ça qu'on lui fout un peu la paix, il faudrait tout mettre sur la table. Mais il faudrait aussi mettre ce que fait la CIA et ce que font la NSA. Et ça, personne veut qu'on le mette sur la table. Et c'est toute la problématique. Alors moi, je veux juste rappeler que, comme le dit Oliver Stone, et c'est pour ça que Edward Snowden est filmé dans son film, il faut le garder sous la lumière, parce que Edward Snowden le sait, le jour où il n'est plus dans la lumière médiatique, il n'est plus.
Mais c'est sûr.
Il est mort.
C'est sûr.
Il le sait, il en est conscient, il l'a fait en toute conscience de donner ces données-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de voir qu'on a un homme qui n'est pas un super-héros, mais qui a juste une morale, et une éthique plutôt, et qui d'un seul coup se dit « Merde, là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pas admissible, il faut faire quelque chose », et qui abandonne tout, parce qu'il avait tout. Hein. Il avait une très belle maison à Hawaï, il était très bien payé, il aurait pu rester comme ça toute sa vie et faire comme tous ces potes geeks qu'on voit dans le film, qui se la coulent douce et qui, en gros, sont plutôt cool, alors que leurs programmes servent à aller désinguer des gens à l'autre bout du monde. Mais lui, non. D'un coup, il se dit ça, c'est pas possible. Et il fait partie des gens qui disent stop, il y en a pas beaucoup. Donc c'est quelqu'un qu'il va falloir continuer à suivre et surtout à le laisser dans la lumière. Voilà. Mais allez voir le film, vraiment.
Ouais, mais tu m'étonnes, le mec, ils ont envie de le désinguer, forcément. Parce que,
clairement.
Ouais. Mais comme plein d'autres lanceurs, c'est des dangers parce que finalement, ils mettent aussi en lumière ce que sont capables les États. Oui. Comme identité de bafouer toutes les règles et toutes les lois,
oui.
Parce que finalement il déroge à toutes les règles et il a besoin d'un tribunal pour donner des accès.
On fabrique
un faux tribunal, oui, quoi, enfin qui est tout de suite
ça,
direct.
C'est pour aller être en accord avec le 4e amendement de la Constitution, hein, c'est tout.
Mais voilà, et donc on trouve un moyen de pallier à ce problème là. En fait, toutes les lois sont toujours. C'est un businessman qui disait ça, non? Toute loi est faite pour. Pour être contourné.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et on va pas apprendre à ceux qui écrivent les lois à les contourner, c'est en ça. Plus, quoi.
Et juste, la dernière chose que j'ai oublié de dire, allez le voir, ne serait-ce que pour une chose, le rôle des vrais journalistes, des bons journalistes, de ceux qui existent encore. Parce qu'il faut arrêter de cracher sur tous les journalistes comme si c'était tous de la merde. Là, vous aurez l'exemple de 3 journalistes qui prennent vraiment des risques. Mais quand je parle des risques, c'est même des risques physiques pour publier ça. Et vous verrez ce que c'est que le journalisme d'investigation. On l'avait déjà vu avec un autre film.
Spotlight,
voilà. Arrêtons de toujours cracher et mettre tout le monde dans le même panier.
Les grands
Il y a
ensemble.
Des gens qui font... Là, c'est 2 journalistes du Guardian et 1 journaliste du New York Times. Si ça n'avait pas été là, Edward Snowden n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait et serait sûrement mort aujourd'hui.
Oh bah oui, voilà. C'est certain.
Voilà.
Ok. Eh ben, alors on
musique.
Musique.
Some say you're a patriot.
Et vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Alors, c'était Peter Gabriel avec le titre The Veil. C'est un titre qui a été écrit pour servir de musique de générique au film Snowden, dont je vous ai parlé juste avant. Et puis, comme j'aime bien Peter Gabriel et que c'est pas souvent qu'il sort des trucs, là, j'étais bien content. Voilà, donc c'est l'occasion de vous le passer. Et donc, Jean-Yves, il est de retour, mais qui est ce il ?
Il est de retour, effectivement. Je vais vous parler d'un livre, d'un roman, pour être plus exact. Il est de retour, c'est de Timur Vermes, aux éditions Belfond. Alors, l'auteur, vite fait, c'est donc il est né en 67 à Nuremberg, ville allemande. C'est un écrivain allemand d'origine hongroise par son père. Il a fait des études d'histoire, de sciences politiques, et il devient journaliste et contribue à de nombreux journaux et magazines. Et il est aussi l'auteur de livres qu'il ne signera pas de son nom, mais qu'il écrit pour d'autres personnes qui signeront le livre de leur nom à eux. Donc voilà. Alors, il est de retour. C'est sorti en 2012 en Allemagne, en 2014 en France. Il y en a eu 1,5 million d'exemplaires de vendus en Allemagne. C'est traduit dans 35 langues. Et donc, qui est de retour ? Eh ben, on a la réponse en regardant la couverture, je peux vous la faire comme ça, mais même si vous tapez vite fait sur votre moteur, il est de retour. C'est un fond blanc avec une coupe de cheveux où on devine une mèche sur le côté, avec le titre qui est écrit à peu près au niveau de ce qui pourrait être une moustache très centrale, un peu sous le naseau comme ça. Qui est de retour ? C'est Adolf Hitler. Alors ouais, c'est Adolf Hitler qui se réveille un jour je vais vous partager un petit peu de ce que c'est pour après peut-être continuer un petit peu plus.
Juste le début du livre, ce qui permet de comprendre.
C'est ça. Alors ouais, je vous lis le
prologue.
Le prologue et après un petit bout du début vraiment du premier chapitre. Réveil en Allemagne. C'est le peuple qui m'a le plus surpris. J'avais pourtant fait tout mon possible pour empêcher que la vie puisse se perpétuer sur ce sol profané par l'ennemi. Pont, centrale électrique, route, gare, j'avais donné l'ordre de tout détruire. J'ai même vérifié à quand remontait cet ordre, c'était en mars, et je pense avoir été on ne peut plus clair. Toutes les installations servant à un quelconque approvisionnement devaient être détruites. Centrale hydraulique, centraux téléphoniques, usines, ateliers, moyens de production, exploitation agricole, tout ce qui avait une quelconque valeur matérielle, tout, et quand je dis tout, cela veut dire tout. Hein ? Vous voyez un petit peu l'autorité qui se met en place ? Et le début du premier chapitre, c'était donc, c'est comme ça que commence le livre. Je me souviens, je me suis réveillé, ça devait être en début d'après-midi. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu le ciel au-dessus de moi. Il était bleu, légèrement voilé. Il faisait chaud et je me suis tout de suite rendu compte qu'il faisait trop chaud pour un mois d'avril. On pouvait presque parler de canicule. C'était relativement calme, pas d'avion ennemi au-dessus de moi, pas de grondement de canon, pas d'explosion à proximité, ni de sirène annonçant une attaque aérienne. J'ai également noté qu'il n'y avait pas de chancellerie, pas de bunker. J'ai tourné la tête. J'étais allongé sur un terrain vague entouré par des maisons dont les murs de briques étaient en partie barbouillés par quelques vauriens. Cela m'a mis en rogne et j'ai voulu aussitôt convoquer Dönitz. Et voilà. Et ça commence comme ça.
Mais donc, c'est donc Hitler qui parle dans le livre.
C'est ça.
Première personne.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la première personne, effectivement. Nous sommes donc dans le cerveau, dans la personne d'Adolf Hitler. Hein, et on se rend vite compte hein, que ses idées, ses plans n'ont clairement pas changé. Hein, on le sent bien, toujours encore raciste, tout ça, tout ça. Et qui veut le pouvoir. Par contre, il sait qu'il doit juste changer de stratégie pour y accéder. Et donc après ce réveil, en fait, on suit l'errance de Hitler dans Berlin. On est en 2011, hein, je crois, il se réveille. Donc il est dans Berlin. Hitler, dont tout le monde pense quand il le voit, que c'est un acteur, en fait. Ils se disent c'est un acteur, personne ne le prend vraiment au sérieux. Et donc voilà, et donc il erre comme ça pendant quelques jours. Ouais, je pense au même moment de son réveil, il tombe sur un kiosque. Et un kiosquier avec qui le mec il hallucine un petit peu, mais il le vanne et il se dit c'est un acteur. Il lui dit tu peux rester là 2-3 jours, c'est pas un problème. Bon, ce qui en fait finalement c'est quelques jours comme ça dans ce kiosque, dans ce lieu où il y a du monde qui passe, mais il y a des journaux, il y a de la presse, donc ça permet en fait à Hitler de saisir l'environnement dans lequel il vit aujourd'hui, en tout cas dans lequel il se réveille, et l'année, le régime politique aussi, enfin les régimes qu'il y a à travers le monde, etc. C'est dans le même kiosque que quelques jours après, il va tomber sur messieurs Sensenbrink et Savatsky, qui eux font partie d'une société de production. Et là, tout va.
Production de télévision, c'est ça ?
De télé, ouais. Ouais. Ouais, qui travaille pour la Satine, c'est des chaînes allemandes en fait.
Oui.
Donc on est vraiment des vraies chaînes allemandes, etc. Et donc là, effectivement, ça va s'emballer. Toutes et tous étant persuadés, ou du moins s'en persuadent en fait, qu'il s'agit d'un acteur, d'un comédien, on lui propose de commencer par une chronique dans une émission de télé, en fin d'émission de télé, quoi. Et là, il rencontre le succès. Il rencontre le succès, là où lui parle au premier degré, le public, lui, il l'entend toujours au second degré. Parce qu'effectivement, on peut rire un peu avec lui, mais... très vite, on se rend compte qu'en fait, il rit plus vraiment, en fait, parce que nous, on est dans sa tête et qu'on sait que ça n'a pas vraiment changé, en fait. Hein, ça n'a même pas changé du tout. Et donc, il y a aussi des journaux qui vont commencer à enquêter sur lui parce qu'il déménage. C'est-à-dire que ce personnage, il va être lui-même, en fait. C'est ça qui est.
Il est le même Adolf Hitler.
C'est ça.
Que dans les années 30,
c'est
quand
ça.
Qu'il a atteint le pouvoir. En fait.
C'est ça. Et il est dans ses émissions, il cartonne, quoi. C'est-à-dire que même le présentateur, on va dire, phare de l'émission lui en veut absolument, lui disant mais t'es en train de me voler ma place. Donc on n'est même pas sur
pouvoir.
Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur qu'est-ce que tu dis. On est sur tu es en train de voler de ma superbe. En
on
fait.
Est vraiment dans le jeu de pouvoir. C'est-à-dire
qu'on
cherche pas à comprendre pourquoi, mais t'as pas à prendre ma place.
C'est ça. Et donc de là, il y a quand même des journaux qui vont enquêter sur lui parce qu'il y a des choses qui sont étranges. Il y a des gens qui vont aussi clairement dénoncer son humour. Que eux et elles ne trouvent pas drôle du tout. Et pourtant, en fait, ça continue, quoi. C'est le succès. C'est le succès. Et donc, voilà. Donc, je veux pas trop vous en dire parce que ça n'a pas d'intérêt.
Gâcherait le livre.
Oui, évidemment. Donc, alors, clairement, hein, ce livre n'est pas n'est pas une ode au fascisme, tout ça. Hein, c'est pas
c'est
du
même
tout
plutôt l'inverse.
C'est évidemment. Enfin, j'espère que les extraits que je vous ai lus au début, ça vous a démontré quand même qu'on n'était pas dans une ode au fascisme. Et là, par contre, effectivement, c'est là où c'est perturbant, c'est que, des fois on rit avec lui. Alors j'ai vraiment un exemple qui me revient, c'est quand il va faire un tour donc au NDP, qui est donc le
Nouveau
National Démocratischer
Partit,
un truc comme ça, qui est donc le Parti National Démocratique. Et Adolf Hitler, évidemment.
Qui est en fait le parti néo-nazi allemand.
Voilà, c'est la relève. Et donc Adolf Hitler, évidemment, il y va parce que il veut quand même voir à quoi ressemblent ses héritiers. Et là, on a quelque chose. Il les prend de haut en leur disant que c'est des merdes, en fait. Que, évidemment, face à lui et sa vision strictement nazis, eux, ils sont plus... Bah, c'est ce qu'ils disent, parce que déjà, dans leur nom, il y a démocratique, quoi. Et lui, enfin, il dit, mais vous rigolez, les gars. C'est pas possible, en fait. Démocratique, c'est de la décadence, en fait. Et donc, vraiment, donc, on rit avec lui, parce que c'est quand même vachement drôle. Et que...
Jusqu'au milieu de la scène, en fait.
C'est ça.
Où là, la bascule se fait.
C'est ça. Et alors, des fois aussi, ce que je disais, c'est on rit de lui, quoi. Parce qu'il est quand même... Enfin, il est outrancier, il est trop tout, quoi. Et ses énervements, on les imagine. C'est-à-dire, bah, comme on a pu voir des images de lui dans ses discours, on s'imagine bien que, voilà, quoi. Ces petites crises sont vraiment presque rigolotes. Et effectivement, après, il y a la bascule, parce que on va se rendre compte que des fois, quand il rencontre des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Clairement, il dit, vous avez de la chance qu'aujourd'hui, je n'ai pas une armée digne de ce nom-là, sinon vous feriez partie des premiers exécutés. Et là, malgré ça, finalement, ça continue, quoi.
Et il le dit calmement. C'est-à-dire que lui, il le dit pas du tout.
Ah non,
pour lui, c'est logique. Voilà, et comme... Alors, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu l'adaptation cinématographique. De temps en temps, il cite carrément son livre, Mein Kampf. Il cite le paragraphe qui permettait de déporter les gens. Il parle de les faire flinguer par la Waffen-SS.
C'est ça.
Mais il le dit très calmement. C'est-à-dire qu'il y a pas de... Pour lui, c'est naturel. Donc, il y a pas...
Oui.
Il y a pas à en faire un drame, quoi.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est un stratège.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que il le dit dans le livre. Hein, il dit pour l'instant, j'ai absolument pas les moyens de faire ce que je voudrais faire. Donc, des fois, même quand on est un fureur, il faut savoir mettre un petit peu de sa fierté dans sa poche et avancer. Et on est vraiment dans ça, c'est-à-dire c'est un calculateur politique fasciste et ça continue, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça.
Et là, il s'appuie même sur l'environnement, parce qu'il dit aujourd'hui ce qui plaît aux gens, c'est ça.
C'est effectivement, alors dans le livre, il rencontre des partis politiques, hein, des Verts, le parti pirate, parce que lui est le chantre de la liberté d'expression et il se fait agresser à un moment donné dans le livre et que forcément, donc quand on dit ça, bah il y a plein de gens qui sont venus lui courir après, qu'en lui disant mais vous savez dans notre parti et donc c'est il y a quelque chose de vraiment perturbant parce qu'effectivement ce monstre humain, parce que justement il faut pas déshumaniser les monstres, il est en contact avec des gens qu'on voit actuellement, quoi. Donc c'est hyper perturbant, cette confrontation du passé, du réel dans un futur potentiel. Enfin, il y a quelque chose d'assez dingue.
C'est intéressant en fait de voir que le but est avant tout de rappeler que les horreurs de l'homme sont faites par de l'homme au grand avec un grand H, des humains sont faits par des humains.
Oui,
et
c'est
que,
ça.
Donc il faut arrêter de croire que ce sont des espèces de diables sortis d'on ne sait où ou des êtres extraordinaires. En fait, ce ne sont juste des concordances de choses qui font que ces êtres-là arrivent à la tête des États et permettent de faire des saloperies comme ça.
Bah, c'est ça en fait, c'est parce que justement moi ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que c'est l'aveuglement en fait des gens face à ça qui est bien démontré et qu'en fait dans le système de télé par exemple, bah tout le monde est satisfait parce que lui, il fait venir du monde. Finalement, il file de l'audience, donc ça fait du pognon, ça fait de la réputation pour les gens qui sont directement producteurs. Donc, en fait, c'est presque ça arrange tout le monde, en fait, et qu'on s'en fout un petit peu presque de ce qu'il dit. C'est plus ce que ça apporte. Et après, c'est effectivement là aussi où ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu le disais, c'est que il diabolise pas, en fait. Alors, il diabolise pas, alors ça veut pas dire qu'il faut dire que c'est tout bien, hein, c'est pas ça l'idée. C'est il diabolise pas ce qu'on aime à appeler, moi j'entends souvent ça et j'aime à corriger, c'est les gens qui disent toutes ces choses-là, comme le nazisme, le fascisme, sont des choses inhumaines. Bah non, en fait, à un moment donné, c'est pas inhumain. C'est pas des extraterrestres qui viennent faire ça sur la Terre, ce sont bien des semblables à vous, à moi et à tout le monde, qui à un moment donné font ça. Donc, tout en le rendant pas sympathique, parce qu'effectivement, il continue à avoir sa vision politique, fasciste, raciste, antisémite, sexiste, enfin tout ce que vous voulez, hein, et ça enlève rien du tout. Mais effectivement, c'est pas un extraterrestre, c'est-à-dire que c'est un humain qui a des idées dégueulasses. Et donc voilà. Enfin moi, je pourrais que vous le conseiller parce que et c'est aussi l'auteur qui le dit. C'est que il a voulu écrire ce livre parce que c'est souvent en temps de crise que les gens reviennent vers quelqu'un de charismatique. Et qu'il parlait de l'Italie avec le mouvement 5 étoiles, il a aussi, je crois, à un moment donné, cité Dieudonné en France. Et qu'effectivement, il y a...
Marine Le Pen, il la cite souvent.
Marine Le Pen aussi. Ouais. Et qu'il y a cette notion-là qu'effectivement, à force de croire que nos ennemis fascistes sont les pires abrutis, en fait, c'est nous qui allons rire les derniers, en fait. Parce qu'il y a une vieille juive qui le rencontre et qui le reconnaît, alors ça c'est plus dans le film, mais qui le reconnaît et qui dit en fait c'est le même monstre et ça commence toujours pareil.
On le prend pas au sérieux.
On le prend pas au sérieux, on en rit et ensuite on en rit plus du tout. Et ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment, ça a fait un peu de bruit par-ci par-là, mais enfin, vraiment c'est moi je le trouve très clair ce livre. Comme le film, je le trouve très clair, alors c'est pas forcément la meilleure adaptation, etc. Non. Enfin... On l'a vu en français, donc je vous le conseille de le voir en allemand. Ça s'appelle aussi « Il est de retour ». Et c'est une adaptation pure et dure du livre. Vraiment, voyez ça parce que je trouve que c'est toujours intéressant.
Et lisez, parce que le livre est plus complet.
Ah bah, le livre est plus complet et que oui, effectivement, oui, c'est plus complet, évidemment. Donc, je rappelle, le livre, il s'appelle « Il est de retour » de Timur Vermes, c'est aux éditions Bellefond, et les éditions Bellefond, elles ont trouvé une idée très très drôle pour faire parler d'elles, très drôle ou pas d'ailleurs, c'est le prix du livre qui est de 19,33€. Voilà.
C'est voulu parce que c'était en Allemagne aussi, tout était à 1933.
C'est ça, c'est l'accession.
Moi j'ai juste rappelé une chose, c'est que la bouffonnerie et la satire sont souvent les armes les plus efficaces pour dénoncer des dictateurs, et que souvent les gens qui ne veulent pas voir de satire se mettre en place ou de bouffonnerie ont eux-mêmes un fond généralement où ils aiment bien les hommes charismatiques et de poigne. Voilà, ça se répète dans l'histoire, on le voit encore aujourd'hui.
C'est ça.
Donc voilà.
Ce sont des alliés objectifs au pire.
Et comme le disait Charlie Chaplin, la bouffonnerie, c'est la dernière chose qui nous reste avant le désespoir.
Eh ben, c'est pas mal dit. Eh ben, moi, je vous propose qu'on parte sur la zic. C'est bon.
Yeah. Et c'était Taria avec le titre Demons in You. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu.
C'est ça, et c'est toujours la causerie.
C'était du métal symphonique, c'est ça.
C'est ça, oui.
Coucou
c'est
Laurent.
Ouais, c'est ça, une petite blague perso. Alors, on va essayer de s'activer pour vous donner quelques brèves, quelques rendez-vous, et il y en a pas mal cette semaine. C'est toujours avec le mois libertaire, novembre libertaire.
Et d'autres choses.
Et d'autres choses encore, effectivement. Ça commence donc lundi, demain, 14 novembre. Communes et fédéralisme, les outils de l'écologie sociale. Suite aux rencontres internationales de l'écologie sociale qui ont eu lieu à Lyon en mai dernier, nous vous proposons de poursuivre ces discussions à 19h au CEDRATS. C'est sur les pans de la Croix-Rousse.
Montée-Saint-Sébastien.
C'est ça.
Mardi 15 novembre, un débat autour de la critique de la valeur. La lecture de quelques passages éclairants, les points essentiels de la critique de la valeur nous servira de base à une discussion collective. C'est à 19h et c'est aussi au CEDRATS le mardi par contre.
Et mardi, alors ce sera en début d'après-midi par contre, c'est le verdict dans l'affaire du procès de Sophie Perrin qui l'oppose à la fac Lyon 2, je crois, si c'est bien ça. Donc le rendez-vous est donné mardi donc 15 novembre à 14h précise, chambre de la presse, 67 rue Servian, dans le 3e arrondissement de Lyon.
Et mardi, c'est une grosse journée très chargée, car mardi soir à 19h, vous avez Jean-François Gonzalez, qui est astrophysicien, docteur en astrophysique, pardon, qui donne une conférence, Naissance des planètes, mystère résolu, point d'exclamation. C'est donc à 19h, c'est au musée des Confluences, mais c'est gratuit, c'est-à-dire que vous rentrez, voilà, et c'est à l'auditorium du musée des Confluences, voilà. C'est ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans, par rapport au pas, c'est pas que c'est violent, mais c'est que le sujet est un peu complexe.
Ouais, mais ce qui est cool, voilà. Je veux dire, ça veut dire que vous pouvez aussi venir avec des ados, quoi.
Ouais, vous pouvez venir avec des ados. Et c'est, on fait un grand merci à Georges qui nous a signalé cette conférence.
Bah ouais.
Voilà, et c'est un peu dans le cadre des causeries astronomiques aussi.
C'est ça. Ça voilà. Rentre totalement dedans, quoi. Le mercredi, donc 16 novembre, là on retourne dans le mois libertaire, novembre libertaire, hein, parce que
ah oui, c'était en dehors.
La conf astro, c'était en dehors. Mercredi donc 16, c'est projection de 4 petits films contre le grand capital. C'est organisé par la CNT, ça se passe à la CNT. C'est le rendez-vous est à 19h30 et ça se passe évidemment sur les pans de la Croix-Rousse.
Le jeudi 17 novembre, conte contre et poèmes courts. Des traits des visages, des cordes, des langages, des poèmes doux et colériques, des contes énervés et bénéfiques, une contrebasse pour la musique et vos plats à déguster en partage. C'est à la Griffe, c'est à 18h30 le 17 novembre.
Waouh! Et on continue, vendredi 18, messieurs dames! Apéro spectacle de chansons subversives! Ça se passera au restaurant! Des galets bleus la nuit. C'est de la chanson subversive avec François Mallet à partir de 19h. Petite assiette à grignoter et au chapeau pour l'artiste.
Et le même jour, c'est ça qui est un peu dommage, le même jour à 18h30, c'est au bar Les Clameurs, donc c'est autogestion en acte, travailler et décider ensemble, sans patron, discussion avec plusieurs salariés de coopérative, donc c'est donc, je le répète, au bar Les Clameurs. Alors on mettra des liens pour que vous retrouviez toutes les adresses.
Ouais, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, parce que le même soir à 20h30 à la Griffe, il y a la projection du documentaire sur l'histoire d'Agrippino Costa et rencontre avec le réalisateur Cannizzaro. Et c'est aussi à la Griffe à 20h30, toujours le vendredi 18. Faudra vous diviser en plusieurs.
En 3, c'est pas complètement récent. Et le samedi 19 novembre, il y a la présentation du livre à Zaragoza au Al Charco. Voilà, et c'est des récits de protagonistes libertaires. C'est à la Griffe et à 15h samedi 19.
Wow! Et ben là, samedi 19. Toujours à 18h là cette fois-ci, c'est au CEDRATS, c'est autour le défi libertaire aujourd'hui. Venez connaître l'ensemble des structures et initiatives libertaires présentes à Lyon et réfléchir ensemble sur quel peut être ce défi libertaire. Voilà, peut-être que vous verrez toutes les orgas ou pas, hein, parce que je pense que, bon, difficile de réunir tout le monde.
C'est clair.
Voilà, voilà, et ben ça se termine là pour ce programme du mois libertaire, en tout cas pour cette semaine.
Oui, je viens d'avoir une idée, je n'en avais pas parlé, mais je vais le faire quand même. La semaine prochaine, j'aimerais parler de l'élection de Donald Trump, mais j'aimerais avoir vos avis. Donc si vous pouviez m'envoyer ce que ça vous inspire à lacauseriecanu@gmail.com, voilà, le retour de l'élection de Donald Trump, c'est juste pour avoir comme ça des retours, si ça vous dérange pas.
Pas de souci.
Pour qu'on fasse un petit point la semaine prochaine sur qu'est-ce que ça vous a fait au fond de vous-même, tout ça.
Moi, ça m'a fait...
Je vous donnerai le mien. Je vous donnerai le mien, David.
Et ben voilà, ben on s'arrête là parce qu'il est déjà bien bien tard. Et ben on vous souhaite une bonne soirée, une oui. bonne nuit. Bon courage pour,
bon courage pour
la semaine à venir. On se fait des bisous et on va se quitter avec Magnetic Man en duo avec Miss Dynamite. C'est ça.
C'est ça.
Et le titre, c'est Fire.
Yes.
Voilà. Bonne
Allez,
nuit.
Des bisous à
des
tous
bisous.
Et à toutes.
Ciao.
Set them free and let them fly tonight. Burn it down and get them high tonight. So I'ma say it, yo. Wanna play with fire, fire. So I'ma play with fire, fire. So we take them higher, higher. Tell the people if they wanna fly tonight. Burn it down and get them high tonight. So I'ma say it, yo. Wanna play with fire, fire. So I'ma play with fire, fire. So we take them higher, higher. Now feel the fire, people.
Warning. Better step back with who your mother when I take back chat. Now stop up style from the shoe to the front. Chris and Christine full back to head up. Hear my voice. So yes, my tonight. Shine like ice, but you know have a price. Set a fire for the city and a fire for the night. Are you ready for the heat now?
Yeah.
Hit a burn to the speaker.
Yeah.
Hands high, fire burn. Feel the flame burn hard down, look deeper. See me at the first starter.
Yeah.
Could I bring a fellow water? But we still keep this fire alive.
Set them free and let them fly tonight. Sleep on the grind. I can't stop my climb, can't stop my shine. Hear my sound. Oh yes, my touchdown. Pound for pound, we met them all. Ow. Run up in your town, stop, see me money down. If you're ready for the walk down.
Yeah.
So we're going to the top down.
Yeah.
Hands high, fire burn. Feel the flame burn all down, look deeper.
Do you really want a fire?
Yeah.
So let me see your hands higher. And we still keep this fire alive.
Set them free and let them fly tonight.
Them no know about fire. They want to play with fire. You want to play with Miss Dynamite, me bring fire. But we tell them, Magnetic Man, I got burn them.
Set them free and let them fly tonight. Burn it down and get them high tonight. So I'ma say it, yo. Wanna play with fire, fire. So I'ma play with fire, fire. So we take them higher, higher. Tell the people if they wanna fly.
Miss Dynamite brings fire,
fire.
we tell them. Magnetic man, I got burn them. You not ready for the fire? Hey, check it. Check it. Let me tell them.